France Culture.
Bonjour Beata Omoubié-Imérès.
Bonjour Caroline Brouet.
Alors après votre enfance à Boutaré, après le récit de votre sauvetage pendant le génocide des Tutsis en 1994 et votre venue en France, après les engagements humanitaires et sociaux qui ont été et sont encore les vôtres, pour ce quatrième temps de Nos Avoinus, j'aimerais vous proposer de parler de littérature, parce que vous vous êtes mise à écrire. En 2015, apparu votre premier recueil de nouvelles, Ejo. Vous nous avez dit combien vous vous étiez sentie seule. Et là, c'est pas vous toute seule, en l'occurrence, c'est vous et les rescapés. Combien vous étiez sentie seule pendant le génocide. Combien vous êtes restée longtemps silencieux, et vous silencieuse. Et à ce titre, j'aimerais vous lire un extrait de votre livre « Tous tes enfants dispersés » qui montre bien peut-être la nécessité de sortir de ce silence. Mes compatriotes, il m'avait fallu partir ailleurs sur le continent pour réaliser combien nous étions silencieux, secrets et obéissants, austères par certains aspects. J'étais de cette espèce-là. Alors que l'émotion des retrouvailles avec ma terre natale me faisait trembler immensément de l'intérieur, que j'avais à la fois envie de me jeter au cou d'inconnus dont le visage me rappelait celui de mes amis d'enfance, de ma tante, de ma mère, que je voulais questionner chaque homme dont le physique pouvait, à tort, laisser à croire qu'il était Hutu, « Qu'as-tu fait, toi, pendant le génocide ?» Je restais impassible et muette, d'une incroyable décontraction en apparence. C'est pas vous, en l'occurrence, qui parlait, c'est un des personnages de « Tous tes enfants dispersés ». Mais ma question est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez reprendre à votre compte et écrire, est-ce que c'était d'une certaine façon sortir de ce silence par les mots?
Écrire, c'était sortir de cette éducation faite de réserve, de discrétion qui est celle que l'on reçoit dès l'enfance au Rwanda. Mais néanmoins, je n'étais pas la première à écrire et après un événement tel qu'un génocide, enfin, cette catastrophe qui a traversé notre société, les valeurs, les habitudes du passé étaient forcément mises à mal et il s'agissait de témoigner d'une histoire collective. Et contrairement à la plupart des rescapés jusqu'alors qui avaient fait le choix de publier des récits, mon choix à moi était celui de passer par la fiction. Et c'était un choix absolument réfléchi et délibéré. J'avais eu l'expérience en arrivant en France, malgré toute la générosité et l'accueil dont j'avais bénéficié, l'expérience de quelque chose que j'appelle l'inentendable, l'inaudible, c'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, certaines personnes dans mon entourage ont l'air d'avoir du mal à entendre ces histoires du génocide. J'avais eu l'expérience de tendre un livre, témoignage d'une amie ou d'une connaissance à quelqu'un en lui disant « ben voilà, veux-tu lire ceci ?» et de m'entendre répondre « je ne peux pas, c'est trop dur ». Et donc ce qu'on a très longtemps dit depuis la Shoah d'ailleurs, qu'un génocide c'est indicible, c'est innommable, il me semblait qu'il s'agissait là de le rendre entendable. Et contrairement à ce qu'on a dit depuis la Shoah, qu'un génocide c'est indicible, moi je constatais que c'était aussi inaudible. Et d'ailleurs, plus tard, en lisant des textes comme ceux d'Annette Viverka, je me suis rendu compte que au lendemain du génocide, des Juifs, beaucoup avaient écrit, avaient tenté de parler, et que finalement, peu avaient été entendus à la hauteur, en tout cas, de ce qu'ils avaient à dire. Et je rappelle souvent que le texte de Primo Levi, sorti très très rapidement après la Shoah, Si c'est un homme, avait d'abord été refusé par les grandes maisons d'édition italiennes et ensuite est sorti, a été publié dans la quasi-indifférence de la majorité de la population européenne. Donc quand je décide d'écrire, je fais le choix de la fiction, parce que en tant que lectrice, je suis une grande lectrice depuis l'enfance, je sais que, et notamment quand on rentre dans un roman ou dans une nouvelle, on s'identifie au personnage, et la distance qui peut être celle de la temporalité ou de l'espace géographique est abolie par cette identification au personnage. Et donc il s'agissait pour moi d'écrire des textes qui me permettent de prendre le lecteur et la lectrice par la main, les emmener dans une histoire universelle, une histoire de famille, une histoire de transmission entre générations, une histoire de mémoire aussi, et de les amener jusqu'au bord du gouffre de nos existences de rescapés, de les faire quelque part, leur faire toucher du doigt ces abysses-là, mais en étant passé par le subterfuge de l'art, de la littérature. Ce que j'avais appris d'ailleurs en lisant assez jeune l'écriture ou l'existence de Semprin, un personnage sortant de camp de concentration, disant « voudra-t-on nous croire, voudra-t-on nous écouter, même si ce qu'on dit est vrai, il faudra passer par l'artifice de l'art ». Et c'est ce chemin-là que je choisis au début.
C'est le chemin de la fiction, mais c'est aussi, pour le premier en tout cas, et Jo, le chemin de la nouvelle. C'est-à-dire une forme courte. Ensuite, vous vous êtes mis au roman, avec tous les enfants dispersés, avec Consolé. Le convoi, c'est un récit, c'est encore autre chose, on va y venir. Mais avec Ejo, c'est aussi la forme courte. Il s'agit à ce moment-là de 11 récits de femmes, des femmes aussi. Et on est avant et après le génocide. Pas pendant. Donc c'est pas vraiment du témoignage là, effectivement c'est un contournement. Forme courte, avant-après.
Là encore, c'était une manière de rendre entendable, c'était une façon de dire au lectorat, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler des 100 jours de cendres et de sang, mais de l'avant et de l'après. D'ailleurs le titre du recueil Ejo était absolument tout trouvé en fait, puisque dans notre langue, le kinyarwanda, on a le même mot pour dire hier et demain. Et je l'avais utilisé toute ma vie sans y penser. Et c'est pendant l'écriture du livre que je me suis dit, mais voilà, on a dans notre langue quelque chose qui dit de cette temporalité et qui dit aussi justement le fait que, contrairement à ce que les représentations qu'on peut avoir par rapport au continent africain, hein, on n'oublie pas le président français Sarkozy qui avait dit que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Il n'y a pas que le présent de l'événement. Il y a la nécessité, et c'est ce que peut la littérature, de tisser les liens entre les différentes périodes de l'histoire et de comprendre que ce génocide n'a pas été une explosion soudaine de violence et qu'il y a eu des prémices, il y a eu des choses qui se sont installées dans une société, et surtout de raconter quelle est l'expérience de l'après, du jour d'après la catastrophe, et comment dans les vies de rescapés, de ces femmes, de ces personnages-là, le passé reste parfois de façon traumatique très présent. Mais la forme courte, pour moi, c'était aussi une façon de faire le lien avec ma littérature d'origine, c'est-à-dire l'oralité rwandaise et notamment la tradition des imigani. Alors, imigani, c'est le même terme qui désigne à la fois des sortes de contes, de fables de l'ancien temps et aussi les proverbes, qui sont très importants dans la culture rwandaise. D'ailleurs, chaque nouvelle est introduite par un proverbe. Et donc, même si j'écris en français, je fais souvent référence à la culture traditionnelle rwandaise qui a nourri aussi mon imaginaire d'enfance depuis laquelle j'écris.
Puisque vous écrivez en français, tout en insérant des mots, des expressions en kinyarwanda, alors là j'ai un extrait à nouveau de « Tous tes enfants dispersés » où vous parlez de la langue, Beata Omubie Imeres. Pour Blanche, l'une de vos héroïnes, le français pouvait être à la fois une chose délicieuse, solitaire, et un corset public, ridicule et prétentieux. Sa langue maternelle, elle, était sa colonne vertébrale, celle dans laquelle s'exprimaient les chagrins, se taisaient les secrets, celle pour vivre l'ambiance des dimanches enflammés dans la grande rue de Boutaré, quand l'équipe de foot Moukoura avait gagné, pour se fâcher avec Bosco ou se faire engueuler par leur mère. Posséder complètement deux langues, c'est être hybride, porter en soi deux âmes, chacune drapée dans une étole de mots entrelacés, vêtements à revêtir en fonction du contexte et dont la coupe délimite l'étendue des sentiments à exprimer. Vous dites souvent que vous parlez une langue de seconde main, comme on porterait un vêtement de seconde main. C'est un peu ça, le jeu que vous faites entre les deux langues ? Peut-être même trois, parce que vous parlez très très bien anglais aussi.
La langue de seconde main, c'est parce que j'ai appris le français avec les Belges et l'anglais avec les Canadiens. Et c'est aussi une façon de dire que je n'avais pas, contrairement à peut-être une certaine génération d'écrivains d'Afrique francophone, le français de Molière, de Paris, qui aurait été intimidant. Enfin, je suis... très à l'aise avec ce français. Je rappelle souvent d'ailleurs que le français comme l'anglais sont aujourd'hui des langues africaines et que nous ne devrions même plus avoir à nous justifier de les utiliser depuis le continent. Mais en tout cas, ça m'a permis d'être à l'aise et d'insuffler constamment des éléments de ma langue et de ma culture maternelle. Et je pense que c'est ce qui fait aussi ensuite mon langage personnel en tant qu'écrivaine.
Il est beaucoup question de la langue dans vos livres, dans Consoler, entre le Kinyarwanda de Madame Astrida, qui est le personnage de cette vieille dame, qui parle une langue en fait inconnue pour toutes celles et tous ceux qui l'entourent dans l'EHPAD où elle est. Et qui est en fait le Kinyarwanda de son enfance, puisqu'elle est rwandaise, alors que personne ne le sait, personne ne le comprend. Le Wolof de Ramata, cette femme qui a une cinquantaine d'années et qui arrive en stage d'art-thérapie dans l'EHPAD où se trouve Madame Astrida, et qui parle très bien français, parce que de toute façon, elle est d'origine sénégalaise, mais qu'elle est en France. Et il est beaucoup question de la façon dont on doit désapprendre la langue. Peut-être que le mot, vous ne l'approuverez pas, vous allez me dire, mais la façon dont on doit, je dirais, désapprendre sa langue quand on part de son pays. On doit aussi quitter les sonorités. Et parfois, et c'est un peu ce qu'on ressent dans les livres que vous écrivez, en particulier dans ce livre Consoler, on devient muet. Oui. C'est une façon de devenir muet, de perdre sa langue d'origine.
Oui, l'expérience de l'exil est très présente dans mes livres. Et pour moi, effectivement, il y a quelque chose de très important qui se joue au niveau de la langue. Mais j'ai tendance à au-delà du moment où, effectivement, on est silencié, parce que l'expérience de l'exil, l'expérience d'où j'écris d'ailleurs aussi de la survie, c'est parfois une expérience de silenciation. Et donc reprendre langue avec l'humanité, signifie qu'il faut se réapproprier son histoire. C'est ce que la plupart de mes personnages font. C'est se défaire des identités assignées pour être en capacité de dire « Eh bien, je peux être ceci et cela également. Et je ne dois pas... choisir et donc me couper d'une partie de moi-même. Et ça aussi, c'est fondamentalement mon expérience de métisse. Je pense que elle a nourri un positionnement dans la littérature que j'écris, qui est celui d'être une passeuse d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un monde à l'autre, et aussi entre les différentes temporalités. Et la langue, évidemment, est centrale dans ce processus, et à la fois en tant qu'autrice, en tant que quelqu'un qui travaille les mots, mais aussi en tant que femme dans la cité.
Tracer des virgules entre l'arrière-monde et l'ici-bas, dit un de vos personnages dans Tous tes enfants dispersés.
Oui, alors ça, c'est aussi quelque chose, je pense, de, peut-être de ma génération, de personnes qui sont nées, qui ont grandi sur le continent africain et qui ensuite sont venues vivre en Europe. J'aime beaucoup cette une expression que j'ai, enfin un extrait du discours de l'écrivain tanzanien britannique Abdulrazak Gurnah, son discours de réception du prix Nobel, où il dit que nous étions, notre génération, porteurs d'une histoire différente de la colonisation entre la génération d'avant et la génération d'après. Et je pense vraiment que notre génération, c'est celle qui doit tisser les liens entre la génération de nos parents qui, eux, sont en général nés à l'époque coloniale, ont grandi dans l'Afrique post-indépendance où il y avait tous les espoirs étaient permis. Notre génération a vu l'échec de ces espoirs-là, les guerres, les politiques d'ajustement structurel, la destruction d'un projet collectif, parfois d'un projet panafricain. Et puis, nous devons transmettre quelque chose à nos enfants et surtout pas la défaite ou la honte de la génération de nos parents, mais retisser un espoir, l'identité multiple qui est la leur aujourd'hui, et permettre à la génération précédente de transmettre les rêves, les richesses culturelles du passé à ceux qui viennent après.
Ça, je le retiens, Beata Omoubieye-Imérès, pour l'émission de demain qui clôturera nos 5 entretiens. Cette façon d'être une virgule entre deux temps, entre deux générations, une passeuse, et dans la transmission. Et en particulier, c'est vrai que dans vos livres, je pense notamment à Consoler, à Tous tes enfants dispersés, il y a toujours des personnages de jeunes. Alors, il y a plusieurs générations, mais il y a toujours des personnages de jeunes. Par exemple, celui qui dit tracer des virgules entre l'arrière-monde et l'ici-bas, c'est Stokely, qui est un jeune dans Tous tes enfants dispersés. Et dans Consoler, il y a Inès, qui est une jeune femme aussi. C'est très important, donc on verra ça. Dans l'épisode suivant, mais c'est aussi ce que vous avez dit, tracer des virgules entre différents mondes, ce que vous êtes, c'est-à-dire et ça, et la France et le Rwanda, et noire et blanche, et le français et le Kinyarwanda, et la fiction et la non-fiction, et hier et demain, et on pourrait continuer à ad vitam aeternam comme ça. C'est ça la façon d'être métisse.
Oui, pour moi, c'est ça. J'ai réussi à surmonter le sentiment d'être tout le temps différente et de ne pouvoir appartenir complètement nulle part, qui a pu être douloureux dans l'enfance. Et j'ai décidé d'en faire plutôt une richesse et une force. Et sans doute que les littératures que j'ai lu à l'adolescence, en arrivant en France et un peu plus tard aussi dans jeune adulte, m'ont beaucoup aidée. C'est aussi ça que j'essaye de rendre à la littérature. Moi, j'ai vraiment l'idée qu'elle m'a donnée et que je participe maintenant de ce mouvement-là. Il y a eu, ce que vous disiez tout à l'heure, un sentiment de solitude immense. Alors, dans l'enfance déjà, parce que j'étais tout le temps différente. Et puis, la solitude qui a été celle des rescapés, ce sentiment d'être abandonnée par le monde entier, d'avoir la communauté internationale qui garde les yeux grands fermés sur notre extermination, alors qu'on sait aujourd'hui que ce génocide aurait pu être empêché et que même quand il avait commencé, il aurait pu être arrêter. Donc ce sentiment d'abandon-là crée un état de déréliction très, très fort dont on ne se départira jamais. Et pourtant, en arrivant en France, j'ai cette expérience de nouveau, déjà de découvrir que je suis noire, c'est-à-dire j'ai passé mon enfance au Rwanda, on me disait que j'étais blanche, j'arrive ici, on dit que je suis noire, donc il m'a fallu apprivoiser ce que c'était et essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire être noire dans le regard des blancs. Et ça, je l'ai trouvé grâce aux littératures afro-caraïbéennes. J'ai rejoint, quand j'étais jeune étudiante, un cercle de lecture, un book club, on appelle ça comme ça maintenant à Lille, Fest Africa, et c'est dans cet endroit-là, grâce à tout un tas de personnes formidables, que j'ai découvert les auteurs et autrices noirs américains, des Caraïbes, d'Afrique subsaharienne également, anglophone, francophone.
Donc on peut en citer Marie Scondé, Patrick Chamoiseau, Nadine Gordimer, Aminata Sofol, James Baldwin, par exemple.
Oui, oui. Et James Baldwin disait très justement, je rencontre cette phrase de lui un jour qui dit « Tu penses que ton chagrin et ton cœur brisé sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité ?» Et puis tu lis. Et c'est dans ces livres-là que j'ai trouvé les mots qui avaient la forme exacte de mon chagrin, dans ceux-là et aussi dans ceux de survivants de la Shoah. Puisqu'on me dit « Tu as survécu un génocide, je sais ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» un génocide et comment on traverse cette nuit-là.
Donc là, c'est Primo Levi que vous avez cité tout à l'heure, c'est Charlotte Delbo,
Imre
Kertész, c'est évidemment Imre Kertész, oui, qui est très présent dans
Aaron
le convoi.
Aaron Appelfeld,
Daniel Mendelssohn.
Daniel Mendelssohn qui écrit sur l'histoire de sa famille, ou si Anna Langfus, enfin voilà, des auteurs et des autrices qui m'aident à mettre des mots sur cette expérience-là.
Mais aussi, pas seulement la Shoah, d'autres génocides. Par exemple, le génocide cambodgien perpétré par les Khmer Rouges, qui a fait aussi à peu près un tiers de morts dans la population, dans la population cambodgienne. Et vous utilisez en exergue, je crois, du convoi, des mots de Rithipan, le cinéaste Rithipan cambodgien, qui passe sa vie et son œuvre cinématographique à revenir sur la mémoire de ce génocide. Alors, forte de toute cette littérature que vous avez lue, que vous continuez de lire, Beata Oumoubié-Imérès, qu'est-ce que cela vous apporte pour vous-même, pour votre propre littérature? Qu'apporte la comparaison? Qu'apportent les expériences et les mots des autres?
Ben, on en revient à l'expression de Yann Patochka dont on parlait précédemment, c'est la solidarité des ébranlés. Et moi, je crois vraiment en la convergence des luttes à une époque où on est dans une concurrence mémorielle qui m'est très mal à l'aise finalement quand j'interviens dans les universités ou les lycées. Je ne parle pas que du génocide des Tutsis du Rwanda, je parle aussi de la Shoah, du génocide des Arméniens. Enfin, on discute beaucoup aussi avec les jeunes aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza, et c'est important. Mais en tout cas, l'idée que on puisse apprendre des expériences des uns et des autres pour avancer.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait, pour commencer en tout cas, le choix de la fiction. Vous l'avez fait plusieurs fois, puisque vous avez écrit plusieurs livres qui sont soit des recueils de nouvelles, soit des recueils de poèmes, soit des romans. Et puis, avec Le Convoi, en 2022, il est paru en 2024, mais vous avez commencé, je crois, le travail plus tôt, mais d'ailleurs, il a commencé même beaucoup plus tôt. Vous êtes passé au récit personnel. Pour quelle raison?
Parce que la réalité dépassait toute fiction imaginable, parce qu'il s'agissait de rendre hommage à des individus qui avaient réellement existé, les humanitaires de Terre des Hommes, et puis faire connaître aussi l'histoire des autres enfants des convois. C'est un ouvrage qui se voulait collectif et réellement de témoigner d'une histoire extraordinaire qui est celle de ce sauvetage d'enfants pendant le génocide. Mais effectivement, c'était beaucoup plus difficile pour moi de rentrer dans cette forme-là. On a une liberté incroyable avec la fiction. On fait ce qu'on veut et personne ne peut nous dire « ça ne s'est pas passé comme ça ». Le récit m'a demandé une très très grande rigueur. Je voulais respecter la parole des uns, des unes et des autres. Et quand j'ai eu terminé le manuscrit, je me souviens... L'écriture a été plutôt fluide, mais il y a eu ce moment de très grande peur. D'ailleurs, j'avais les mains en feu, un eczéma aux mains, en me disant « j'envoie à chacun et chacune l'extrait où je parle d'elle ou de lui, et il faut que ce livre, ça soit le livre de tout le monde, qu'il soit validé par toutes les personnes que je cite nommément, du moins. » Et donc, un grand moment d'angoisse en me disant « mais si tout le monde refuse, il n'y a plus de livre ». Mais fort heureusement, je pense que la grande majorité des gens ont vu l'objectif de ce récit choral et l'ont approuvé. Donc c'est comme ça qu'il a pu exister.
Est-ce qu'écrire, ça répare ? Est-ce qu'écrire, ça apaise ? Ça remet les choses à l'endroit ?
Peut-être pas pour moi, mais j'ai l'impression que ça a pu réparer au niveau de Terre des Hommes, c'est-à-dire que après ce livre, il y a eu quand même un hommage qui a été rendu par l'ONG à Alexis Briquet, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors.
Alexis Briquet, qui, je le rappelle, était l'organisateur des sauvetages dont vous avez pu bénéficier en 1994 avec cette association Terre des Hommes.
Oui, Suisse. Qui avait été rejoint par sa compagne de Terre des Hommes Italie, Diana Cavadini. Et je pense que oui, ça a réparé à la fois la non-reconnaissance de leur ouvrage et puis ça a réparé quelque chose dans la mémoire, puisque nos mémoires étaient trouées, nos mémoires sont traumatiques et que le travail que j'ai fait pendant plus de 15 ans pour retrouver les images, retrouver les vidéos de la BBC ou les photos prises par des photographes italiens et un autre franco-vietnamien, m'ont permis de redonner un bout de leur histoire aux enfants et moi-même de remettre des images sur des souvenirs qui parfois étaient diffus. Donc ce livre-là, en tout cas, a réparé cela, je pense. En tout cas, c'est aussi le retour que j'ai eu des autres enfants.
Et est-ce que, comme la langue, les mots vous ont sauvé, comme vous nous l'avez raconté dans l'épisode 2, est-ce que vous diriez que... Et c'est aussi parce que dans Tous tes enfants dispersés... le personnage d'Immaculata est caché dans la cave d'une librairie. Est-ce que vous diriez que les livres, ça peut protéger les mots, les livres ?
J'avais été très touchée une fois par un texte de Lady Salver qui, à la radio justement, qui disait un livre ne peut rien face à une guerre, ne peut pas sauver un enfant qui est en train de mourir. Et elle avait tout à fait raison. Les livres... je pense, nous permettent de nous dire, nous permettent d'exister au-delà de nos vies terrestres et aussi de connaître les autres. Mais je reste très réaliste sur le fait qu'ils n'empêchent ni la destruction, ni la violence, ni la mort. Maintenant, c'est quand même toujours assez intéressant de voir que les régimes autoritaires... ont tendance à s'attaquer aux livres et à ce qu'ils peuvent porter, c'est-à-dire la connaissance et l'esprit critique, évidemment. En tout cas, moi, je ne peux pas vivre sans lire. Je peux vivre sans écrire, je peux passer des mois sans écrire, mais je ne peux pas passer un jour sans lire.
Merci, Beata Oumoubié-Imérès. On se retrouve pour le dernier épisode que nous consacrerons donc à la mémoire, à la transmission, aux enfants, ceux et celles pour qui, sans doute, vous écrivez, ceux et celles pour qui vous témoignez. Ça sera l'épisode 5, aux enfants du jour d'après. Merci et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Beata Oumoubié-Imérès. Réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme à voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.